Bonjour Mathilde. Bonjour, installez-vous.
Merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Que le haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Donc c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Quand je me sens menacée, je peux compter sur quelqu'un. Donc, c'est pas juste, je vais aimer cette personne, elle va m'aimer. Non, j'ai besoin d'aide et je vais pouvoir compter sur cette personne.
Dans la première partie de cet épisode de parentalité, nous avons reçu Sophie qui nous a parlé de la manière dont le lien s'est construit avec chacun de ses enfants, comment aussi elle tâche de les sécuriser émotionnellement, comment a pu se réactiver aussi pour elle des moments d'insécurité dans sa maternité. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, la docteure Anne Reynaud nous parle de façon plus détaillée du lien d'attachement, de comment il se construit, de comment se construit la sécurité émotionnelle. Bonjour Anne Reynaud.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes psychiatre, fondatrice et directrice de l'Institut de la parentalité que l'on retrouve dans plusieurs villes, à Bordeaux, Rennes, Nîmes, Aix-les-Bains, Paris et bientôt Cahors. Vous êtes aussi enseignante au sein de plusieurs diplômes universitaires, celui sur l'attachement et un autre sur l'accompagnement de la périnatalité. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres, donc il y a « La sécurité émotionnelle de l'enfant » et « Enfant sécurisé, enfant heureux, éduqué au quotidien grâce aux liens d'attachement » aux éditions Marabout. Et votre dernier livre, « Bébé, apprends-moi à devenir ton parent, naissance, sommeil, attachement, pleurs » aux éditions Le Duc. Cette question de l'attachement, c'est une question qui revient très souvent. J'observe vraiment une préoccupation des parents d'aujourd'hui d'être dans la volonté, voilà, de sécuriser leurs enfants et aussi voilà, de gagner eux-mêmes en sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord cette fameuse sécurité émotionnelle, Anne ?
Alors, c'est pas facile, effectivement, à conceptualiser cette notion-là, parce que c'est comme si on avait un équilibre émotionnel à l'intérieur de nous, comme si on avait une espèce de curseur qui nous permet de nous dire, ah ben là, je suis bien. Voilà, là, je me sens pas menacée, là, je me sens pas en danger, là, je sens que, bon, peut-être que je sors un peu de ma zone de confort, mais finalement, je me sens pas en insécurité. C'est vraiment comme cet équilibre émotionnel. Alors nous, on a des termes un peu abscons, on dit homéostasie. Ben, c'est vraiment ça, c'est cet équilibre qui est psychique, mais aussi physique. La sécurité émotionnelle, elle va aussi se traduire sur un plan physique. Peut-être qu'on pourrait faire un petit exercice. On peut se ramener à une date qu'on n'aime pas trop, mais qui est le 16 mars 2020 à 20h, où on nous a annoncé le confinement et on nous a finalement menacé avec un petit virus qui allait nous tuer quand même. C'était pas anodin. Ben là, on a perdu ce sentiment de sécurité émotionnelle. C'est vraiment ça. C'est un peu comme la poésie parfois où on entend le bonheur, on s'en rend compte quand il est parti. La sécurité émotionnelle, c'est peut-être un peu ça. C'est que c'est quelque chose qui est assez inhérent à notre équilibre qu'on a du berceau jusqu'à la tombe, donc qui fait partie de nous et qui vient nous dire « Ok, ça va. Et si ça va, je peux explorer. Si ça va, je peux m'épanouir. Si ça va, je peux aller chercher des ressources à l'intérieur de moi pour aller explorer. » La sécurité émotionnelle, elle a du sens si on la met en perspective dans une paire de lunettes. Moi, j'aime bien avoir des lunettes attachement. Il y a la sécurité, mais cette sécurité, si elle est là, je peux explorer. Et c'est cet équilibre parce que voilà, quand on est parent, et je rencontre des parents chaque semaine, on se sent bien et on leur dit « mais c'est quoi d'être parent ?» C'est de permettre à nos enfants de s'épanouir en fait. Il y a 20 ans, c'était « je voulais que mon enfant réussisse, maintenant je veux que mon enfant soit heureux ». Donc, il y a toute la notion de développement personnel, d'épanouissement, etc. Ça va avec l'exploration. C'est pour ça que la sécurité en soi, c'est pas un objectif final, c'est ok, si je suis en sécurité, je peux explorer.
Oui, c'est une ouverture finalement pour le développement et voilà, quelque chose qui va aller vers l'épanouissement, la connaissance de soi, etc.
Exactement. C'est vraiment un palier pour permettre à l'individu ensuite de s'épanouir, de mobiliser toutes ses compétences, tous ses trésors pour en faire quelque chose dans sa vie. Et puis aussi, quand il y a de l'adversité, parce que malheureusement, on peut pas, Sophie, elle le disait bien, hein, ben, finalement, les modes d'accueil, ils ont pas totalement répondu aux besoins. Il a fallu que j'équipe mon gamin pour qu'il comprenne mieux que, ben, tout l'environnement n'est pas toujours favorable. C'est ça aussi, c'est d'équiper l'enfant pour que finalement, quand il y a des choses difficiles, eh ben, je peux en parler et je peux le traverser. Hein. On ne peut pas mettre les enfants sous des cloches en disant il t'arrivera jamais de rien, c'est faux. Donc, je vais t'équiper pour faire quelque chose.
Là, ça me semble très important ce que vous êtes en train de dire, Anne, que finalement, la sécurité ou permettre aux enfants de la construire et de la développer, c'est pas les mettre sous cloche, c'est-à-dire c'est pas les couper de l'insécurité. C'est les aider à la traverser.
C'est ça, c'est vraiment majeur et on voit comment c'est important cet équilibre-là. C'est-à-dire que la sécurité, c'est pas empêcher l'enfant d'explorer pour être sûr qu'il lui arrive rien. C'est de toujours être dans cet équilibre entre je te sécurise, mais tu peux quand même monter à l'envers sur le toboggan. C'est pas grave. Tu vas peut-être glisser à l'envers, mais je serai là. Les Québécois avec lesquels je travaille depuis longtemps, ils parlent des parents hélicoptères, c'est-à-dire des parents qui empêchent l'exploration. Et on voit comment aussi c'est un leurre, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, il a aussi besoin de toucher sa propre insécurité pour pouvoir explorer. Donc, peut-être décaler que l'objectif d'un parent, ce n'est pas forcément de sécuriser l'enfant. C'est que l'enfant, il touche ce que c'est que la sécurité et l'insécurité pour que quand il se sent en insécurité, il l'apprenne aussi à demander de l'aide et qu'il apprenne à pouvoir compter sur l'autre. Donc, vraiment décaler les choses et ne pas rentrer dans cette lecture très normative dont tout le monde se saisit un petit peu depuis quelques années en disant, bah voilà, il faut que nos enfants, ils soient sécures. Je pense pas que ce soit la bonne phrase. C'est qu'il faut qu'on aide nos enfants. Il est important d'aider nos enfants à toucher ce que c'est que la sécurité et que quand ils se sentent pas en sécurité, ils apprennent à compter sur l'autre. Et que grâce à ça, ils pourront explorer tout ce que la vie va leur réserver de bon ou de moins facile.
Oui, dans la vie, il y a forcément de l'insécurité.
Forcément.
Dans la définition que vous donniez de la sécurité émotionnelle, il y avait un mot qui me venait, c'était finalement la sécurité émotionnelle. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un état de régulation émotionnelle ?
Ça va avec, c'est-à-dire que grâce à cette compréhension qu'on va avoir de soi-même, de notre sécurité émotionnelle, ben, je vais effectivement être plus connectée à, OK, là, je suis en sécurité, tout va bien, je peux explorer. Ah, tiens, là, je suis pas en sécurité. Ben, je vais peut-être pouvoir d'abord mieux identifier mon émotion, ce que disait Sophie avec ses enfants, mieux l'identifier. Et puis, quand je l'ai identifié, avec le temps, je peux mieux la réguler parce que je vais pouvoir dire à l'autre, bah, écoute, là, ce que tu me fais, moi, ça me blesse. Donc, je t'exprime ça. Après, ça t'appartient d'en faire quelque chose ou moi d'être moins réactif, mais en tout cas, je te le partage. Et c'est majeur ce qu'on fait aujourd'hui sur ce que moi, j'appelle l'éducation émotionnelle, c'est-à-dire ce qu'expliquait Sophie là, qu'elle était même étonnée que son enfant puisse le faire. Le point sur lequel il faut être vigilant, c'est que l'enfant jusqu'à 6-7 ans, même s'il identifie l'émotion, il n'est pas du tout en capacité de la réguler. C'est quelque chose qui met à mal un petit peu les parents d'aujourd'hui en disant « Non mais voilà, je t'ai aidé à identifier l'émotion, maintenant que tu l'as identifié, tu dois pouvoir en faire quelque chose. » Mais l'immaturité, alors je parle même plus d'immaturité, je suis un peu aussi échaudée avec certains mots hein, où globalement je vais dans les écoles en disant « Non mais il a 3 ans et demi, il est immature sur un plan émotionnel. » Ouais, bah, il a 3 ans et demi. Donc, c'est normal qu'il soit immature sur un plan émotionnel. Donc, maintenant, je parle plus de maturité parce qu'il y a quelque chose où on a l'impression que c'est binaire. C'est acquis ou non acquis. Je parle de maturation. Voilà. C'est comme un fruit, en fait. Donc, immature. Bah, voilà. Il est sur sa voie de la maturation. Donc, oui, il a identifié les émotions. Génial. Mais pour autant, jusqu'à 5, 6, 7 ans, il n'est pas en capacité de les réguler. Et ça, on a encore du mal à dissocier les deux. On se dit, OK, ben, il peut le dire, ou il régule, il a le coussin de la colère, c'est bon. Mais ça passe, ça suffit pas chez nos petits, qui restent petits quand même, hein. 4 ans, c'est encore petit.
Si on prend le contre-pied, comment se manifeste l'insécurité chez les enfants? Alors, elle nous a donné des petits exemples, Sophie, dans son témoignage, mais voilà, qu'est-ce que vous observez?
Alors, en fait, l'enfant, comme tout humain, quand il a peur ou qu'il se sent menacé, il a 3 stratégies. Soit, quand on a peur, soit on attaque, soit on fuit, soit on se fige. C'est les 3 stratégies. Et globalement, l'enfant, c'est ce qu'il va manifester parce que l'enfant est surtout en préverbal avant l'accès au langage. Il n'a pas énormément de moyens de nous dire « Waouh, j'ai besoin là de sécurité. Moi, j'utilise, je vais le reprendre, ça m'aidera à peut-être avoir un fil rouge et nous aidera et vos auditeurs aussi à avoir un fil rouge. J'utilise l'image du porte-avions et de l'avion globalement. Mais imaginez que le petit avion, c'est l'enfant, que nous, parents ou figure d'attachement secondaire, qu'on soit référent de crèche, nounou, tata, grand-mère, etc. On est les figures d'attachement secondaire. Donc, il y a les porte-avions principaux et porte-avions secondaires. Et globalement, l'idée, c'est que le petit avion puisse décoller, partir, explorer le monde. Et puis, s'il a peur, il vient se poser sur le pont du porte-avions, faire le plein de sécurité, comme la petite puce de Sophie hein, qui... elle se dit, super, mon porte-avions est disponible la nuit. Donc, c'est là où je vais faire le plein de sécurité pour assumer tout ce que j'ai à gérer dans la journée. Parce que, mais je vais digresser un tout petit peu, mais parce que les enfants d'aujourd'hui en France vivent quand même énormément de menaces avec le fait d'être confiés très tôt à des porte-avions secondaires et puis le fait d'aller à l'école. Alors, l'école en soi n'est pas négative, mais sauf s'il y a des attendus scolaires qui sont trop importants et qui vient aussi les menacer. Et donc, du coup... ils dépensent beaucoup d'énergie et beaucoup d'essence dans la journée et le soir, ils viennent se poser pour pouvoir repartir explorer le monde.
Mais la pause, elle peut être assez explosive le soir et les réveils nombreux la nuit.
Exactement, donc c'est vraiment ça. Donc on va prendre les trois scénarios du petit avion, c'est-à-dire le petit avion, ok, il décolle, il va explorer et puis il veut, il a besoin de faire le plein de sécurité. Ça va répondre à votre question sur comment il va l'exprimer. Alors il y a des petits avions d'abord qui vont plutôt réaliser que finalement le plein de leur essence, il est difficile à faire parce que le porte-avions n'est pas assez disponible, que finalement le porte-avions, il a aussi beaucoup de choses à faire, donc c'est pas toujours facile pour lui d'être disponible, que son pont soit disponible. Puis des fois il y a plusieurs petits avions sur le pont du porte-avions, et puis c'est peut-être pas forcément le moment. Et donc ces petits avions, ils vont se dire « Ok, je vais pas trop embêter le porte-avions, je vais m'autonomiser, je vais faire un peu tout seul, je vais me débrouiller tout seul en fait. » Voilà, je vais plutôt être en retrait. Ces enfants-là, on les observe peu parce que finalement, ils sont plutôt un peu rassurants. On les dépose à la crèche, ils disent rien, on vient les chercher, ils disent rien. Ils sont plutôt silencieux, mais ils peuvent aussi quand même, et là on va voir avec mes lunettes dont je parlais tout à l'heure, on va voir que leur exploration, comme ils font pas le plein de sécurité, ils vont pas aller voler très loin. Donc peut-être qu'ils vont parler un peu plus tard, peut-être qu'ils vont pas trop s'intéresser au jeu, peut-être à l'école ils vont être en retrait, ils vont s'isoler, ils vont pas discuter avec leurs copains, leurs copines, ils vont pas se faire des copains. C'est des enfants plutôt silencieux qui vont souvent nous rassurer. Alors parfois, ça peut être le tempérament de l'enfant. J'avais aussi envie de déculpabiliser un peu Sophie sur son témoignage, disant que peut-être que son aîné, il a besoin de plus de sécurité que les autres enfants. Et il n'y a pas une perfusion directe de l'angoisse du parent à l'angoisse de l'enfant, vraiment déconstruire ça, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus de se poser sur le pont du porte-avions. Et c'est pas parce que le porte-avions, il n'a pas fait le job, en fait. Ça dépend aussi de l'enfant. Et il y a des rencontres qui sont différentes. Sophie le disait bien, entre son aîné et sa cadette, ils n'ont pas le même tempérament. Et le tempérament, c'est aussi un des éléments. Donc voilà, il y a des enfants qui sont plutôt en retrait, qui ont appris à faire comme ça. Et ils vont plutôt nous rassurer, mais malgré tout, soyons vigilants avec ces enfants un peu trop sages. Demandons-nous si parfois, ils n'ont pas besoin de proximité. Une fois, j'avais un petit bonhomme qui dit « Non, moi, même pas peur. Il y a eu un orage, même pas peur. J'ai pas été demandé à papa, etc. » Puis en allant un tout petit peu jouer avec l'enfant, il me dit « Non, mais tu sais, en fait, ça me fait peur. » Et donc, je me mets sous le lit. Voilà, de se dire, il y a un orage, peut-être je vais aller dans sa chambre voir comment il va, cet enfant-là, parce qu'il va pas venir. Je commence par eux parce que souvent, on les voit pas beaucoup. Et quand on les laisse vraiment très enfermés dans leur monde, parfois, on va mettre une étiquette d'autiste sur ces enfants-là. Je ne dis pas qu'il y a des enfants autistes et qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux, ça existe. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont plutôt en retrait parce qu'on leur fait vivre des choses qui sont quand même pas faciles dans notre société d'aujourd'hui. Deuxième petit avion, il vient se poser, il a besoin de se poser sur le pont du porte-avions, mais comme il n'a pas de décodeur, il ne vient pas nous dire « Bonjour porte-avions, j'ai besoin de me poser sur le pont du porte-avions, faire le plein de sécurité. » Et puis le porte-avions n'est pas toujours disponible parce que ces petits avions, ils viennent tout le temps en fait. Voilà, tout le temps se poser. Et donc on dit « Non, plus tard, non, tout à l'heure, non, j'ai pas le temps, non, je suis pas dispo, et puis on verra. » Puis finalement, on voit et puis ça n'arrive pas souvent. Et alors ces petits avions, pour venir se poser sur le pont du porte-avions, s'ils sont juste souriants, ça marche pas. Et ils vont devoir finalement utiliser ce que nous, on va appeler des comportements d'attachement aversifs. Ça veut dire que je viens attaquer le porte-avions, je viens le polluer, je viens m'opposer, je viens provoquer, je viens refuser de m'habiller comme c'est prévu, je viens refuser le repas qui est prévu, j'ai pas envie d'aller dormir, j'ai besoin d'un rituel de plus, j'ai soif. Enfin, voilà. Et je viens hyper solliciter le porte-avions, mais avec des comportements qui, au bout d'un moment, vont faire l'inverse. Parce que le porte-avions, au bout d'un moment, Sophie, elle a bien dit, hein, au bout d'un moment, j'en peux plus, en fait. J'ai juste envie de dormir. Voilà. Donc, bah, ils vont envoyer un signal et ils vont obtenir la réponse inverse. Et plus on leur envoie la réponse inverse, bah, plus ils vont venir vouloir se poser sur le pont du porte-avions. Et c'est ce cercle pas vertueux qu'il faut pouvoir accompagner. Voilà. Donc, globalement, l'enfant, soit il va hyper solliciter avec des comportements de plus en plus provocateurs. On a des parents qui nous disent, non, mais j'ai un mini ado, quoi. On fait une activité, il se fixe pas. Ben non, parce qu'il a tout le temps besoin de se poser sur le pont du porte-avions. Et donc, globalement, c'est comme ça que l'enfant va nous manifester son insécurité et que on va réaliser qu'il a besoin de venir se poser et de faire le plein.
Quand vous dites ça, j'entends de nombreux parents qui ont peur de la dépendance, finalement. Que l'enfant qui sollicite tout le temps, il y aurait comme cette idée que si on répond tout le temps aux besoins de l'enfant, on va le rendre dépendant. Et donc, qu'il n'explorerait plus le monde.
Ce que nous apporte cette lecture sur le besoin de sécurité émotionnelle de l'enfant, et globalement la théorie de l'attachement, mais on y viendra ensuite, c'est que globalement, ça va dépendre de son âge développemental. C'est-à-dire que un petit avion, avant un an, avant l'accès à la marche et au langage, il dépend totalement de la disponibilité de sa figure d'attachement pour éteindre ce sentiment de menace. Donc, il est essentiel de lui répondre par de la proximité physique, du portage, tous les éléments qui vont permettre à ce petit avion de faire le plein de sécurité. Et plus il va avoir fait le plein de sécurité sur cette première période, plus finalement, il va s'autonomiser pour la suite. Donc effectivement, je ne vais pas forcément donner la même guidance à un parent d'un enfant de 3-4 mois, d'un enfant de 3-4 ans. Quand il a 3-4 ans, le petit avion, il a plus de capacités, il a plus d'applications, hein, si on prenait des images un petit peu plus modernes, mais il a plus d'instruments de vol, voilà. Il a plus d'instruments de vol pour faire face à l'insécurité sans besoin de son porte-avions là tout de suite. Donc effectivement, lui offrir une grande proximité, Sophie, elle expliquait comment sa petite a eu des reflux et qu'ils lui ont offert cette proximité constante. Je trouve ça admirable. Et ça a dû être très aidant pour cette petite fille, très éprouvant pour son parent. Mais globalement, jusqu'à 6 mois, 1 an, et c'est pour ça que les pays qui ont intégré cette lecture-là offrent cette proximité des figures d'attachement principales pendant au moins 6 mois, voire 1 an de l'enfant, parce que là, il a besoin de faire le plein. Une fois qu'il a le plein, OK, et là, c'est tout un travail d'accompagner la parentalité. Comme le disait Sophie, là, il va falloir que je lâche mes petits avions et je tremble un peu, je les laisse au portail de l'école et je sais pas ce qu'ils deviennent. Mais là, je dois faire confiance à ce que j'ai pu leur apporter comme sécurité pour que finalement, ils puissent explorer le monde et que le soir, waouh, ils viennent se poser sur le pont du porte-avions et faire le plein pour réexplorer l'école. Donc, non, il n'y a pas de dépendance à partir du moment où on trouve cet équilibre et qu'on offre à l'enfant sur ses au moins 6 mois première vie. Donc, c'est bien, on a eu les 15 jours du congé paternel. C'est largement insuffisant. Je ne sais pas ce que va devenir les propositions aujourd'hui gouvernementales, mais on a réellement besoin d'un temps où l'enfant va rencontrer ses figures d'attachement, où ses figures d'attachement vont être réellement disponibles pour lui. Et ça, ce sera des facteurs de protection. Que le petit avion il puisse décoller et explorer le monde et son monde.
Oui, là, vous soulignez quand même vraiment l'importance de la disponibilité du parent autour de la naissance, en tout cas dans les premières semaines et premiers mois de vie de l'enfant.
Oui, c'est réellement là que se construisent ces fameux liens d'attachement, parce que derrière la sécurité émotionnelle, il y a cette notion de lien d'attachement. Et c'est globalement sur ces 1000 premiers jours dont on entend beaucoup parler depuis quelques années maintenant en France, qui commence dans l'anténatal, comment je vais me préparer à être le porte-avions de ce petit et comment je vais faire tout le travail que Sophie nous a évoqué, comment je réalise que mes porte-avions, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais finalement ils n'ont pas eu eux-mêmes peut-être de porte-avions, ou peut-être que leurs porte-avions ont connu la guerre, donc ils ont fait comme ils ont pu et qu'il n'y a pas de culpabilité du tout à avoir, je commence à devenir porte-avions. Et puis après, il y a la naissance du petit avion et comment je vais répondre là concrètement à ses besoins, toutes les questions d'alimentation, et on voit toutes les injonctions que ses parents reçoivent qui sont pas souvent cohérentes, prévisibles et stables. Or, ça, c'est notre mantra, cohérence, prévisibilité, stabilité. Comment finalement Si je reprends l'explication de la crise sanitaire, rappelez-vous, hein, waouh, on a activé là, on était menacé, on a perdu notre sentiment de sécurité. Et pour être en sécurité, j'ai besoin cohérence, prévisibilité, stabilité. Ramenons-nous à ça. J'aurais pas voulu être le ministre de quoi que ce soit, mais cohérence, j'avais beau changer de chaîne, je n'en avais pas. Prévisibilité zéro, stabilité zéro. Regardez combien de temps on est resté un peu suspendu dans un inconfort. On a été obligé de mettre des rituels chez nous, des horaires pour retrouver finalement une forme de sécurité qu'on a retrouvée. Et puis après, on a parti explorer. Mais globalement, voilà, c'est ça qu'il est important de comprendre. Et tout ça se construit sur ces 1000 premiers jours. Et puis ensuite, l'enfant va expérimenter. OK, j'ai peur. Donc, la nuit fait peur. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés sur la nuit. La nuit fait peur. La douleur fait peur pour l'enfant. La faim active aussi ce système d'attachement. Et globalement, bah, l'enfant va expérimenter. OK, j'ai peur. Et OK, je peux compter sur quelqu'un. Et Sophie a commencé là-dessus, hein, comment l'enfant peut me faire confiance en tant que porte-avions pour finalement, OK, me dire, il y a quelqu'un qui veille sur moi. C'est vraiment ça, la sécurité. Je sais que je peux compter sur quelqu'un qui veille sur moi quand je vais me retrouver en danger. Et c'est pas quelqu'un qui va m'empêcher de me trouver en danger, c'est qui va veiller sur moi quand je me sens menacée ou que je me sens en danger.
Pour revenir sur cette question du lien, alors j'ai trouvé ça très intéressant que vous souligniez, il n'y a pas de perfusion directe entre l'insécurité du parent et celle de l'enfant, mais est-ce qu'il y a quand même une forme de maillage? En tout cas, moi, je vois beaucoup de parents qui, quand ils deviennent parents, sont réactivés, comme nous en a témoigné Sophie, voilà, qu'il y a une insécurité de ce qu'ils ont pu vivre eux-mêmes enfants. Alors, on sait que devenir parent réactive le petit bébé et l'enfant qu'on a été. Et donc, comment, quand on est réactivé par ces insécurités qui appartiennent à notre histoire, comment on démêle les choses avec cette idée, voilà, de pas transmettre, de pas faire revivre ça à son enfant, de faire autrement et de lui permettre de développer cette sécurité?
Ah ben, cette lecture, elle est très déculpabilisante parce qu'elle vient nous dire que globalement, on peut avoir été insécure ou ne pas avoir compté sur nos porte-avions. Et on a plusieurs épisodes dans notre vie qui vont nous permettre de restaurer cette sécurité qui n'a pas été acquise dans l'enfance. La première étape, c'est l'adolescence. La deuxième étape, c'est au moment où on va rencontrer un compagnon, une compagne, un amoureux, une amoureuse. On peut ne pas avoir été en sécurité et puis finalement rencontrer un porte-avions qui va faire que eh ben là, on va restaurer les choses. Et puis, quand je deviens parent, c'est aussi l'occasion de restaurer ce sentiment de sécurité, même si je ne l'ai pas acquis, grâce à la relation que je vais vivre avec mon enfant. Donc, non, il n'y a pas de transmission intergénérationnelle directe. Elle est beaucoup plus large et elle s'inscrit surtout dans une lecture, alors je vais utiliser un autre gros mot, épigénétique. C'est-à-dire que si mon environnement est sécurisant, ma propre insécurité, eh ben, elle va être restaurée. D'accord? Donc, et d'ailleurs, hein, je reviens aux Québécois parce que je travaille beaucoup avec eux, mais d'autres pays travaillent comme ça, les pays nordiques, la Belgique, aujourd'hui l'Italie. Ils nous disent bien, mais vraiment là, les dernières recherches au Québec viennent nous dire que, y compris sur des populations et des publics qui ont vécu des traumas sévères, des traumas graves dans leur vie, ces traumas, ils vont pas... Alors bien sûr, il y a des choses, des reviviscences qui vont arriver au moment du devenir parent, mais en travaillant sur le lien que le parent va vivre avec son enfant et comment l'enfant va construire des liens d'attachement avec cette figure d'attachement, on sait qu'on va restaurer les événements du passé et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller faire la spéléologie sur les traumas du passé pour arriver à faire ça. Et moi, je trouve que c'est une avancée majeure et que c'est extrêmement déculpabilisant. C'est pas parce que vous avez vécu des choses douloureuses que forcément vous allez les reproduire avec vos enfants, à la condition que l'environnement, et Cyronique parle de niche affective, à la condition que l'environnement soit suffisamment sécurisant pour que là, le parent qui a été en insécurité puisse vivre et vivre ce que nous, on appelle une expérience relationnelle correctrice. C'est OK, j'ai pas été sécure, mais là, je suis sécurisée parce que ma sage-femme, finalement, eh ben, elle m'a été très aidante en anténatal et elle continue en postnatal et qu'elle fait les liens avec la puère et qu'elle fait les liens avec l'environnement et que je peux compter sur mon compagnon ou ma compagne. Et si je fais ça et que j'éprouve un sentiment de sécurité, eh ben, mon enfant, il va en bénéficier. Et c'est ça qui est génial et qui est une réelle chance, une opportunité, une période que moi j'appelle initiatique, c'est-à-dire, ben ouais, je peux restaurer tout le monde, et auquel cas tout le monde c'est gagnant-gagnant, mais à plein d'étages, quoi. C'est gagnant pour l'enfant, parce que globalement on va lui permettre de vivre ça. C'est gagnant pour le parent, parce que ben c'est grâce à l'interaction, à la relation, qu'il va pouvoir restaurer cet enfant intérieur qui a probablement souffert de choses. Souvent ça restaure des professionnels qui se sentent aussi valorisés par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et puis souvent, ça va aussi restaurer des générations passées, réussir à leur remercier en disant bah, « En fait, tu vois, je t'en veux pas tant que ça et je comprends que finalement, toi-même, tes portagions, bah, ils ont été en difficulté parce qu'il y avait la guerre ou des événements. » Et puis finalement, ça vient apaiser les choses, responsabiliser tout le monde. Oui, on est responsable, mais on n'est pas coupable en fait. Voilà, donc c'est inverse et je trouve majeur. Donc oui, utiliser le lien, mais pas avec une lecture opportuniste. Ouais, je vais l'utiliser. Non, je vais. En fait, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Parfois un peu mal emballé parce que le gamin qui pleure toute la nuit, toute la journée, on se dit ah, je comprends pas, je suis pas un bon parent. Bah en fait, il vient me dire non, mais t'as le droit aussi de prendre du temps pour toi, de te poser, qu'on prenne le temps de ça et qu'on se rencontre et que voilà. Moi, je trouve que un des enseignements majeurs de nos enfants, c'est qu'ils nous disent hey, « pousse, stop ». C'est ce que vraiment je travaille dans mon dernier ouvrage. « Pousse ». Vous savez, comme à la récré avant, là, on se disait « pousse ». Voilà, ben, nos enfants, ils nous disent « pousse, hey, arrêtez ». Enfin, il y a des réseaux, mais les notifs, c'est pas grave si on la regarde pas tout de suite. Et puis, c'est pas grave si on répond pas aux mails tout de suite. Enfin, voilà. Ils nous font faire la méditation, mais pleine conscience. Tout le temps.
Dans ce que vous venez de dire, j'entends vraiment un premier conseil, si on peut dire, de l'importance pour le parent de prendre soin de soi, qui fait envoler cette parentalité sacrificielle, voilà, qu'on peut beaucoup voir aujourd'hui. Non, c'est-à-dire, là, vous avez quand même souligné l'importance de se sécuriser, qu'on l'ait reçu ou qu'on l'ait pas reçu. En tout cas, on peut mettre des choses en place en tant que parent pour se sécuriser soi et que ça, ça va profiter ensuite aux enfants, aux petits avions.
Tout à fait. Nous, on dit, en anglais, c'est caring for the caregiver. Je prends soin de celui qui prend soin. Parce que si le porte-avions, il coule, ben, il n'y a plus de porte-avions pour le petit avion. Mais l'enjeu d'aujourd'hui, c'est, merci pour la question parce qu'elle est importante. L'enjeu d'aujourd'hui pour les parents, c'est de trouver cet équilibre. C'est-à-dire que leur propre sécurité émotionnelle est majeure pour qu'ils prennent soin des enfants. Mais parfois, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Gérard Nérand, qui a écrit un ouvrage sur l'amour individualiste. On voit aussi comment, parfois, ben, les besoins du parent l'emportent sur les besoins de l'enfant. Et cet équilibre, il est difficile à trouver pour les parents. C'est-à-dire que j'ai besoin de me sécuriser, ben, sans en oublier l'enfant. Et on voit que pour certains parents, leurs propres besoins l'emportent sur les besoins de tout le monde et ils disent, ouais, ben là, je peux plus, donc ils pleurent, mais je vais pas répondre à ces besoins. Et on voit les parents qui aujourd'hui sont quand même soumis à un stress majeur, hein. Ils doivent trouver une place en crèche avant même la naissance, crèche qui y a plus de place, on sait pas si on va trouver une nounou, comment ça va se passer. Ensuite, il y a l'école. Ils sont quand même confrontés à des attendus scolaires qui sont quand même majeurs. Voilà, je vois des parents aujourd'hui, et pour aller dans les autres pays, notre système éducatif, il est extrêmement menaçant pour les très jeunes enfants. Et donc, les parents, ils se retrouvent toujours à l'interface entre l'équipe éducative et l'enfant. Et comment, ben, ils doivent aussi être parfois infusibles, donc ils doivent tenir malgré tout. Et je trouve que le job parental aujourd'hui, il est... Enfin, voilà, quand j'ai vu aussi la crise sanitaire, les consignes, etc., je me disais, heureusement que le mien, elle a 20 ans, parce que voilà, c'est très dur ce qu'on leur demande aux parents d'aujourd'hui. On leur demande d'être productif au travail à 4 mois après l'accouchement. Enfin, voilà, tout ça pour avoir une équité femme-homme, j'entends bien, mais tout ça, c'est des injonctions paradoxales et les parents, ils sont au milieu de tout ça et ils doivent quand même répondre aux besoins de sécurité de l'enfant. Les Québécois, ils disent, l'enfant a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment fou de lui pour penser que l'enfant est prioritaire sur l'adulte. Voilà. Pour autant, l'adulte, pas dans une dimension sacrificielle comme vous l'évoquez, et je trouve que c'est cet équilibre qui est extrêmement complexe pour les parents d'aujourd'hui à trouver dans des modes de réflexion autour de cette fonction qui sont assez ambiguës. Là, on parle de, voilà, il faut faire des bébés, oui, mais à quel prix? Enfin, je veux dire, moi, j'ai une collègue là qui m'a dit, non, mais je vais pas en refaire, je sais même pas comment il va être gardé en crèche ou chez la nounou. J'en ai deux, j'en voudrais trois, mais puis l'inflation, etc. Donc voilà. Et on entend tout ça, mais il faut faire des bébés. Ouais, mais non, en fait. Voilà.
Oui, oui, là, ça pose vraiment la question de l'environnement. Ce besoin de sécurité, en quoi il est essentiel et en quoi il permet le bon développement de l'enfant ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances sur le développement de l'enfant, même si ça reste une science très récente. Alors Dolto nous a beaucoup aidés avec Un enfant est une personne, et exactement ce qu'a pu dire Sophie, c'est-à-dire qu'ils ressentent des choses. Mais une date, hein, 1989, avant 1989, pas d'anesthésie pédiatrique. Donc la douleur de l'enfant, donc on se dit, ben c'est pas si vieux que ça en fait, hein. Donc et encore aujourd'hui, on dit, oh c'est pas grave, il est petit, il va pas s'en rendre compte. C'est faux, tout ça c'est archi faux. Et donc on a une science en évolution constante. Et j'espère et probablement que les neurosciences affectives et sociales iront encore plus loin et tout ce qu'on sait sur l'enfant vont encore s'enrichir. Donc c'est une science dynamique en fait, hein. Et la psychodynamie et la psychanalyse ont aussi apporté des choses. Enfin, faut vraiment avoir une lecture très intégrative, hein. Chacun a amené sa pierre à l'édifice et pas dans une opposition marquée, comme on a pu voir ces derniers mois. Et donc, on en arrive aux besoins de l'enfant. Pendant longtemps, on a travaillé avec la pyramide de Maslow, en particulier sur les besoins de l'enfant, avec quelque chose d'un petit peu... On a eu aussi d'autres auteurs qui ont travaillé là-dessus, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances sur les besoins fondamentaux de l'enfant et émerge de toutes ces connaissances cette notion de méta-besoin de sécurité de l'enfant. C'est-à-dire que, l'enfant, il a besoin d'explorer, l'enfant, il a besoin de construire son identité, sa confiance en lui, sa confiance aux autres, tout ce qu'on trouve dans la pyramide de Maslow, de pouvoir accepter qu'il y ait un cadre, des limites, etc. Mais tous ces besoins-là ne pourront être satisfaits que si on respecte le besoin de sécurité de l'enfant. Et dans ce besoin de sécurité, il y a plusieurs niveaux. Il y a le besoin de sécurité en termes de santé, c'est-à-dire, il a besoin de manger, d'être soigné quand il y a une maladie, vacciné, etc. Besoin de santé. Un besoin de sécurité physique aussi, qu'on respecte son intégrité physique, qu'on ne l'attaque pas, qu'on ne l'agresse pas. Ça, c'est tous les travaux d'Edouard Durand sur la civise, passionnant, mais aussi abominable de voir autant d'enfants qui aujourd'hui vivent encore des humiliations, des châtiments corporels, même s'ils sont aujourd'hui interdits, mais globalement, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, il y a un troisième niveau qui est la sécurité émotionnelle et qui, là, vient faire référence finalement à tous les travaux de John Bowlby sur la théorie de l'attachement pour savoir comment finalement cette sécurité qu'on a déjà bien décrite, comment on va pouvoir répondre à cette sécurité. Et donc, si je me sens dans cette sécurité de santé physique et émotionnelle, je peux explorer, je peux construire mon identité, je peux accepter le cadre, je peux construire ma confiance en moi, en l'autre, et globalement, je suis équipée pour vivre et pour survivre à cet environnement qui parfois est féroce.
Faire face à l'adversité.
Exactement.
Du coup, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'attachement ? Vous venez de citer John Bowlby, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient ?
John Bowlby est donc un pédopsychiatre, psychanalyste anglais qui a travaillé beaucoup dans la période de l'après-guerre et qui a observé ses enfants qui étaient confiés dans les orphelinats, se rendant compte avec d'autres auteurs comme René Spitz, Anna Freud ou autres que ces enfants, malgré le fait qu'ils étaient nursés, ils avaient à manger, ils étaient finalement cette premier niveau de santé semblait respecté. Pour autant, un certain nombre d'entre eux se dégradaient sur un plan psychique et en arrivaient à ce que Spitz a appelé une dépression anaclitique. C'est un gros mot, mais c'est une expression qui vient de dire une dépression très sévère qui faisait que ces enfants se laissaient mourir, en fait, tout simplement, entre guillemets. Et il s'est dit, mais en fait, moi, ce que j'ai compris de lien d'attachement, c'est que en fait, l'enfant, en fonction des pulsions, j'ai une pulsion de manger, donc je vais recevoir de l'alimentation, et grâce à cette alimentation, je vais construire des liens d'attachement. Et John Bowlby, il s'est dit, en fait, ça marche pas, parce que malgré tout, on les nourrissait et il leur manquait une dimension. Donc, il a été un peu voir comment ça se passait chez les éthologues, pour voir chez les animaux, Lorraine, Sarlot, les petits canards, les petits singes. Et puis, tout le travail sur le phénomène de l'empreinte, où on se rend compte que finalement, les personnes qui prennent soin de ces bébés animaux, ils ont une place aussi. Et puis, que le réconfort affectif permettait finalement à ces petits animaux de survivre. John Bowlby s'est dit, il y a autre chose. Et il a petit à petit conceptualisé cette théorie, qui est la théorie de l'attachement. Alors, dans les autres pays, ils disent même plus théorie, ils disent attachement. Pour que ça reste pas encore une lecture un peu idéologique, dogmatique, enfermée, quoi. C'est une théorie, ça fait peur un peu. Non, c'est quelque chose de vivant, en fait. Donc, il s'est dit, OK, donc il y a quelque chose d'autre. Et finalement, si on va là, je vais la résumer en une phrase, John Bowlby, il nous a permis de comprendre que pour survivre, un enfant et un individu est équipé d'un système d'attachement hein, qui va, comme le 16 mars 2020, 20h, c'est comme un système d'alerte qui va s'activer si je me sens menacée. Waouh ! J'allume mon alarme et puis je vais tout faire pour réguler et éteindre mon alarme. Et pour ça, j'ai besoin de savoir que je peux compter sur quelqu'un qui est, je reprends les mots de John Bowlby, censé être plus fort et plus sage et qui va m'apporter ce réconfort quand je me sens en insécurité et ouf, je vais éteindre mon alarme. Globalement ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a une méconnaissance majeure de la théorie d'attachement et que si je vous dis c'est quoi l'attachement, globalement, on va me donner la définition habituelle, c'est un lien affectif durable entre deux personnes. Ok, d'abord affectif, et ben nous en France, on a confondu attachement de l'anglais par attachement et donc on y met un lien d'amour. Et donc non, je peux être affectée par l'autre, mais pas forcément l'aimer. Donc, je suis la référente de la crèche. Je vais être touchée par cet enfant parce que je vais prendre soin de cet enfant pour longtemps. Je ne l'aime pas. Et pour autant, il a besoin de moi en tant que porte-avions. Donc, voilà, on a confondu beaucoup les choses et on confond encore beaucoup les choses. Et on met du coup, l'enfant, il va passer plus de temps avec le nounou, il va plus aimer sa nounou. Non, il a besoin de savoir qu'il a ses porte-avions principaux et ses porte-avions secondaires. Donc, lien affectif durable, c'est pour ça que moi, dans mon ouvrage, j'ai appelé ça la sécurité émotionnelle et pas affectif, pour que ça n'induise pas cette confusion. Et ensuite, souvent, on oublie la deuxième partie de la phrase. J'ai besoin de construire un lien affectif, pas amoureux, durable, pour savoir que quand je suis en insécurité ou quand je me sens menacée, je peux compter sur quelqu'un. Donc, c'est pas juste, je vais aimer cette personne, elle va m'aimer. Non, j'ai besoin d'aide et je vais pouvoir compter sur cette personne pour me réconforter. Voilà, et John Bowlby, il est parti de ce constat-là qu'il a mis en œuvre avec des observations. Il a travaillé avec l'OMS et d'autres organisations. Et puis, petit à petit, avec ses collaborateurs, on cite souvent Mary Hansworth, ils ont été plus loin. Et Mary Hansworth, surtout, elle a été plus loin en décodant un petit peu ce que je vous ai expliqué des porte-avions, tout en nous expliquant que ces catégories ne sont pas fermées et que ce qui compte, c'est de savoir est-ce que cet enfant dans cette situation ou cet adulte, il est en insécurité et cette insécurité va plutôt la manifester sur un mode ou sur un autre. Parfois, il va plutôt être attaquant et puis parfois, il va plutôt être en retrait, mais de pas enfermer les gens dans une catégorie en disant « ouais, alors il est insécure évitant, donc du coup, non, c'est pas aussi simple ».
Ce qu'on appelle dans notre jargon les styles d'attachement et que finalement, dans les deux petits porte-avions, les réactions différentes que vous nous avez décrites par rapport au témoignage de Sophie, on voyait bien qu'il y a des moments où son petit avion a besoin beaucoup la nuit de venir, mais qu'à d'autres moments, elle est en sécurité et qu'elle a moins besoin. Donc, les choses sont jamais forcément toujours figées dans une case.
Peut-être cette pression que vivent les parents, il faut que forcément mon enfant il soit tout le temps sécure. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est il doit pouvoir toucher la sécurité la plupart du temps mais de toute façon, par moment, il va et de manière très récurrente plusieurs fois dans la journée être en insécurité et c'est qu'est-ce que je vais faire de cette sécurité là. Donc probablement décaler l'objectif aussi de se dire ah non mais il faut que mon enfant il soit sécurisé. Non, il faut qu'il sache que quand il a besoin, il puisse compter sur quelqu'un. Et ça décalera aussi ce culte de la performance où on doit se dire « Waouh, ok, d'accord, il faut qu'il soit sécure ». Non, non. Il faut qu'il sache qu'il puisse compter parce qu'il va avoir des moments où il sera insécure. Et c'est important parce que s'il n'a pas la chance de toucher cette insécurité, il ne saura pas quoi en faire plus tard, en fait.
Oui, faire face. Vous avez parlé de figure d'attachement principale et secondaire. Comment elle se construit, la figure d'attachement principale ?
Alors, elle se construit beaucoup dans les expériences et dans les relations du quotidien. C'est-à-dire que comment finalement ce petit avion qui va à activer son système d'alerte dès la naissance, hein, parce que la naissance, j'étais dans un petit cocon, bien douillet, température constante, bruit atténué. Et là, j'arrive, même si j'ai un accouchement physio dans l'eau, etc. Donc, j'active mon système d'attachement et je vais voir si je peux compter sur les figures d'attachement. Donc, ça se construit dans le quotidien, dans les expériences répétées du quotidien. J'ai faim, ok, je reçois de cette sécurité et de la proximité. Et je vais enregistrer toutes ces réponses que je vais recevoir de mes différentes figures d'attachement pour petit à petit enregistrer que, ok, quand j'ai peur, j'ai une réponse. Et tout ça, ça va se construire sur la première année de vie et se stabiliser sur les 3-4 premières années qui suivent. Globalement, c'est 1000 premiers jours, mais un peu plus large. Les neurosciences nous disent jusqu'à 5 ans. on va construire ces fameuses stratégies d'attachement. Et ensuite, alors tout n'est pas foutu après 5 ans, hein, tout n'est pas joué après à ce moment-là. C'est déterminant, mais pas déterministe. Ça veut dire que à tout moment, je peux faire évoluer, comme je vous l'ai dit. Et puis en plus, après, il y a l'adolescence, la construction du couple, la parentalité. Tous ces moments-là vont me faire pouvoir restaurer les choses ou parfois m'insécuriser aussi. Hein, ça marche dans les deux sens. Mais globalement, ça se vit vraiment dans cette période, d'où l'importance de prendre soin des parents pour qu'ils prennent soin de leur enfant dans cette période sensible où finalement l'enfant il va expérimenter, ok, j'ai peur, j'envoie un signal, je reçois une réponse, j'éteins et je vais intérioriser ça. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas répondu une fois à son enfant qu'il va tout de suite devenir insécure. C'est aussi ça, hein. C'est pas, donc déjà John Bowlby l'avait dit, les neurosciences viennent nous encore plus le valider. Ce qui est passionnant aussi, hein, dans cette théorie qui a été décrite alors qu'on n'avait pas ces connaissances en termes de neurosciences affectives et sociales en particulier, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences et même toute la dimension biologique viennent valider l'hypothèse de John Bowlby. C'est-à-dire quand j'ai peur, bah oui, je vais activer mes neurotransmetteurs, mon cortisol, etc. Mais je vais pas pour autant griller tous mes neurones, quoi. Ok, je vais donner une information de dire, ok, j'ai peur, donc il faut que je retrouve une ressource et je vais intérioriser. Ah ben, ok, quand j'ai peur, je peux trouver une ressource. Ça veut dire que, ok, je peux faire confiance à l'autre et ça veut dire que l'autre m'accueille dans ma difficulté, donc je peux me faire confiance en moi. Bah, tout ça, c'est totalement interdépendant et c'est en ça que cette lecture autour des stratégies d'attachement, elles sont très aidantes. Donc, comment ça se construit dans la répétition du quotidien? Dans les expériences du quotidien et plutôt, ben, on va le comprendre, dans les expériences qui sont menaçantes pour l'enfant. Hein, d'être que dans les moments où tout va bien, l'enfant n'identifie pas que c'est un porte-avions. Il a aussi besoin de faire l'expérience de ben, « je me sépare de maman à la crèche, mais je peux compter sur ma figure d'attachement qui est ma référente pour finalement m'apaiser. Je me réveille la nuit. » La nuit est un grand moment aussi pour construire des liens d'attachement. Et on a évoqué aussi cette attente des parents qui ont aussi besoin de dormir, et on l'entend, mais quand même de répondre aux besoins de sécurité de l'enfant la nuit alors que le système d'attachement est activé, est un moment majeur aussi pour l'enfant d'expérimenter et d'éprouver le fait que son parent est disponible pour lui aussi sur ce moment majeur d'activation de son attachement à ce moment-là.
Oui, ça me semble très important de le dire pour que les parents, voilà, pour lesquels c'est difficile, voilà, qu'ils sachent qu'il faut tenir bon. C'est vraiment important pour l'enfant. Qu'est-ce qui fait que l'enfant appelle, alors bien souvent, dans la majorité des situations, quand il est en situation de danger, principalement sa mère?
C'est vrai que la figure d'attachement principale, souvent, elle est plutôt maternelle, mais pas que. Et les travaux sur les pères sont plus récents. Et nous disent que c'est beaucoup plus équitable qu'on imagine, en fait, et que il n'y a pas une figure d'attachement principale, souvent il y en a deux, et que l'idée n'est pas d'être binaire. Ça, c'est la première chose. Il y a quand même aujourd'hui clairement une disponibilité plus importante de la maman dans les semaines qui suivent la naissance de l'enfant, qui fait que de manière évidente, dans les expériences vécues, comme on le disait tout à l'heure, ben, il y a quand même plus de fréquence avec la maman. Donc, c'est en ça que, globalement, ça se construit plus de cette manière-là, mais on voit aujourd'hui qu'avec l'équilibre et que l'engagement des papas dans ces nouvelles postures parentales, enfin maintenant elles commencent à être installées, ils sont aussi très présents. Donc on voit les choses évoluer par rapport à ça. Et puis je pense que c'est pas si simple parce que en fait, je vais vous raconter l'histoire. J'adore le Père Noël, j'adore faire une photo avec le Père Noël, même moi adulte. Donc j'embarque mon mari en général. Et la dernière fois, ben on attendait et puis il y avait une petite fille qui était dans les bras de sa maman. Et elle attendait avec papa et maman pour faire la photo du Père Noël. Elle était blottie dans les bras de sa maman, elle nous souriait, etc. Et puis quand elle a vu le Père Noël, comme beaucoup d'enfants, elle a hurlé, elle avait hyper peur, etc. Elle était dans les bras de maman, elle a tendu les bras à papa, okay, pour dire « j'ai besoin de sécurité là ». Et j'ai envie vraiment d'utiliser cet exemple pour vous dire qu'en fait, en fonction de la menace, peut-être que ça va être papa sur cette menace-là qui va être réconfortant et maman sur une autre menace qui va être réconfortante. Ce qui compte, c'est que l'enfant puisse avoir au moins une figure d'attachement et idéalement 2 ou 3 pour savoir qu'il peut compter sur quand même plusieurs porte-avions. Donc, il y a une proximité. Si le papa est très présent dans le quotidien, c'est pareil.
Est-ce qu'il y a des étapes dans la construction de ce lien d'attachement qui sont vraiment importantes? Là, je pense à la grossesse, au moment de la naissance, voilà, ou des moments un peu charnières où il faut être un peu plus attentif.
globalement, ce qu'on sait de cette construction de ces liens d'attachement, alors en anténatal, qui va surtout être essentiel, c'est que le porte-avions se prépare à être porte-avions. C'est-à-dire qu'il s'autorise à prendre soin de lui, qu'il prenne du temps. Et on voit comment Sophie, elle expliquait sa culpabilité sur sa deuxième grossesse de ne pas être suffisamment disponible. Donc, c'est pas une disponibilité constante, c'est une disponibilité même par des petites respirations. Mais voilà, de temps en temps, de s'autoriser à se poser, ça, c'est en anténatal. Probablement, et on voit ce qui se passe autour de ce qu'on appelle la transparence psychique, on voit que pendant la grossesse émergent énormément de souvenirs de nos propres enfances. Et là, on peut juste, sans aller faire du décodage hyper complexe, de se dire « Ah ouais, ben finalement, mon porte-avions, il n'a pas été très dispo, mais quand même, il a fait du job. » Donc voilà, se poser ces questions-là, parfois régulées aussi dans le couple, pour voir quels sont un peu nos idéaux éducatifs et puis de pas être trop exigeant par rapport à ça. Parce qu'il y a la réalité ensuite qui va arriver. Et puis ensuite, il y a la naissance de l'enfant. Donc bien sûr, c'est un temps majeur. Le conseil, c'est aussi à nouveau prendre le temps de la rencontre. On voit aujourd'hui des parents qui vont très très vite, des sages-femmes qui nous disent... En fait, la première chose, c'est de prendre en photo pour l'envoyer sur les réseaux et on voit qu'il y a des temps de peau à peau qui sont squeezés parce qu'on a envie d'aller vite, de présenter vite le bébé. Et puis ensuite, on sait que pendant 3-4 mois, l'enfant, il va pas encore différencier les différentes figures d'attachement. C'est-à-dire que c'est sur ces 3-4 mois qu'il va faire l'expérience qu'il peut compter sur des porte-avions, mais il peut pas encore, ce que nous on dit, les discriminer, les différencier. Et il va commencer à les différencier après 4 mois, de 4 mois à 1 an. Et donc, de 4 mois à 1 an, c'est pour ça que vers 9 mois, il a peur de l'étranger. C'est-à-dire, ah tiens, cette personne-là, elle n'est pas source de protection, en fait. Pourquoi je vous donne ces curseurs-là? C'est que les pays qui ont compris cette construction-là ne confient pas les enfants à d'autres figures d'attachement avant les 4-5 mois de l'enfant, 6 mois idéalement, pour que effectivement là, l'enfant il stabilise ses liens d'attachement. Donc, le lien d'attachement va de la personne vulnérable, donc de l'enfant vers le parent. C'est vraiment majeur aussi. Tant que l'enfant n'a pas réellement construit des liens d'attachement suffisamment stables avec ses figures d'attachement principales, on ne le balance pas aux autres porte-avions. Ce qui est notre difficulté, nous, c'est globalement ces 3 mois. Et 3 mois, l'enfant, il n'a pas encore stabilisé. C'est pour ça aussi qu'on a des enfants qui vont beaucoup pleurer au retour de crèche ou de mode d'accueil parce que ils sont encore, ils n'ont pas un réservoir assez gros pour faire le plein et supporter d'aller voir déjà d'autres figures d'attachement. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire passer, que la commission des 1000 premiers jours a fait passer. On a gagné 15 jours, mais ça reste insuffisant aujourd'hui. Et ça donne à nos enfants plus de job à faire. Et du coup, ça éprouve aussi la fonction parentale à notre sens. Voilà. Et puis après, entre 6 mois et 1 an, il va plus stabiliser. Puis entre 1 an et 3 ans, il va... internaliser tout ça, mais c'est encore mobilisable de manière assez facile. Et puis ensuite, ça va commencer à s'installer, plus se cristalliser et faire en sorte que, effectivement, l'enfant va avoir construit ce que nous, on appelle ses stratégies d'attachement. Mais vraiment, je le répète, elles se revisitent dans la dynamique de la vie.
Si vous aviez un conseil, à quoi le parent peut faire attention ou être vigilant pour l'aider à avancer sur ce chemin, la construction de la sécurité émotionnelle?
Alors moi, mon premier conseil, c'est que le parent se fasse confiance, parce que en fait, on sait aujourd'hui qu'il a beaucoup de pertinence à discriminer les difficultés, à les percevoir et à partager ça. D'abord, il se fasse confiance qu'il peut recevoir bien sûr de l'aide, et c'est toute notre aspiration à nous, acteurs du soutien à la parentalité, mais pas à la place du parent, et il n'y a pas une lecture normative. Donc, c'est d'abord que le parent, il se fasse confiance, et ensuite, probablement qu'il apprenne à mieux décoder les signaux du petit avion, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. S'il se fait confiance et qu'il est déjà sensible à ce que va lui envoyer l'enfant, et qu'en plus, on va l'aider à décoder les signaux. Nous, on le voit, c'est notre travail. Ça dure 2-3 séances. Et en fait, la rencontre se fait. Et finalement, c'est extrêmement, on rentre dans un cercle vertueux, une chaîne de sécurité où tout le monde se sent en sécurité. Et on a des parents, nous, qui en sont à séparation parentale, tellement c'est éprouvant, et qui retrouvent le plaisir d'être ensemble. Donc, se faire confiance, apprendre à décoder les besoins de l'enfant et les signaux de l'enfant, et puis retrouver la joie d'être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement menaçant. Nous, on voit des enfants, en fait, ils sont en soins dans tous les côtés, et on leur dit « Est-ce que vous avez des loisirs ?»« Ah bah non, on n'a plus le temps, en fait. » Donc, retrouvons la joie d'être ensemble, le plaisir de se découvrir, le plaisir de se déranger, parce qu'en se dérangeant, en fait, on avance aussi, et sortons de ces injonctions sociétales. pour se découvrir, parce que je pense que c'est tout l'enjeu de la vie et de jouer avec ce qu'elle nous donne à traverser, en fait.
Et pour les parents qui ont envie de creuser cette question de l'attachement, moi, je recommanderais le livre sur l'attachement de Joanna Smith. Merci beaucoup, Anne Reynaud. Je rappelle que vous êtes psychiatre, fondatrice et directrice de l'Institut de la parentalité qui se situe à Bordeaux, Rennes, Nîmes, Aix-les-Bains, Paris et bientôt Cahors. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture !